Pavillon Nomade, le direct.
Profitez d'aller prendre l'air. D'ailleurs, je profite, vu qu'on parle de profiter, de remercier tous nos collaborateurs hein, qui permettent aussi aux bénéficiaires de soins de pouvoir aller se balader dans ce magnifique parc, profiter des jours qui viennent. Et je remercie aussi tous ceux qui sont connectés, qui ont fait l'effort de connecter notre émission aujourd'hui. Il y a notamment l'UPA3, le Châtaignier, la Forêt et certainement le Laurier. Et puis, on essayera de faire en sorte qu'on soit écouté partout. Si vous voulez nous retrouver, on est sur pavillonnomade.ch en live et vous pouvez retrouver tous nos podcasts de toutes les émissions. Ça fait un an, on a fêté d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, cette belle émission avec Jean-Marc Richard que je profite encore pour remercier. Suzanne.
Oui, moi, ça me montre encore qu'on peut sourire à la vie quand on voit des belles fleurs et que les personnes sujettes comme moi au négatif parfois, eh bien, qui sont là hospitalisées aussi, qui sont loin de rire, eh bien, qu'ils lèvent les yeux et qu'ils se penchent sur des fleurs aujourd'hui et demain et tous les jours du printemps.
En tout cas, on a commencé cette émission en s'imaginant ce qu'était le printemps, de comment on se le représente, de comment on vit. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte un petit moment après cette interlude musicale de Abel sous le titre de « Imagine ».
Assis seul, prince de la cour, l'héritier de la couronne d'or, à ciel.
That's a big old friend, Iron.
Parle pas d'amour, c'est des trucs d'enfant. Mais je suis un enfant, je fais des châteaux de sable. Quand j'étais petit, je voulais être éléphant. Je suis chevalier, on m'a donné le sabre. Avec le temps, j'ai pu avoir le trône. Mais j'aime pas être mature, ça fait pousser ma barbe. Moi, j'aime voir mon reflet me dire que c'est mon clone. Et de jouer au foot en dessous des arbres. J'habiterai dans un HLM ou peut-être je me construirai une cabane. J'entends les voisins du dessus, je crois qu'ils en ont marre. Je sais que je peux me payer le voyage, je regarde la savane sur M6. Et puis je parle avec cette fille, mais elle me parle que de ses vœux et de ses études, c'est chiant. Mais réalise tes vœux, c'est comme ça que tu te fais des thunes, chérie. Quand t'étais petite, tu voulais devenir une princesse. Maintenant les lundis, je te retrouve à la Migros. On a grandi chacun en faisant les sans cesse. T'inquiète pas, dans un ou deux mois je t'inviterai au château. Et même au bal peut-être. Mais faut que tu mettes ta plus belle robe. Mais y'aura pas d'alcool, y'a du sirop. Mais bon, on rira quand même. J'ai des ballons et des guns. Il reste plus qu'à mettre de l'eau. Le prince est redevenu jeune. Mais imagine, en fait depuis le début, tout ça c'est un rêve. Genre, Assiel a jamais été prince. Je sais que tu kiffes le prince, tu veux les mêmes bijoux. On se cachait sous les herbes pour se faire des bisous. Mais Assiel il a peur de monter sur scène. Et mes premiers concerts c'était sous la douche. Arrête tes commentaires derrière tes faux aussi. Mets des plumes sur une mouche, elle sera belle aussi. C'est temps, je vois mon nom partout et ça devient trop nocif. C'est bon, ce soir dans mon rêve je suis un shérif.
Direct.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, il est exactement 15h41. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie et que vous êtes content de ce qu'on vous propose aujourd'hui à l'émission. Alors aujourd'hui, on a les invités du jour, Gérald et Wilson, concernant les saisonniers. Alors c'est vrai que j'ai eu une discussion avec Marie qui travaille au quartier culturel et elle m'a envoyé un article qui m'a quand même surpris, hein, qui est un article qui a été sorti dans le Matin Dimanche le 19 juin 2022 concernant la souffrance des ouvriers agricoles en Suisse, la Grande Emberta. Et on pouvait y lire des salaires à 15 francs de l'heure, 450 la chambre, des lieux vétustes, des conditions de travail juste inadmissibles, dans des conditions des fois même où ils travaillaient à 4-5 degrés toute la journée, 18 heures de suite. On a aussi le peu finalement de soutien et de contrôle sur les conditions de travail de ces saisonniers. Enfin, un article que vous pouvez certainement retrouver qui date du dimanche 19 juin 2022. Alors moi, ça m'a quand même posé question, ça m'a quand même mis un petit peu en discussion. Puis je ne vous cache pas que en tant qu'amateur de montagne et de ski, je suis régulièrement sur les pistes. Et puis j'ai fait la rencontre de Gérald et Wilson, ça fait déjà quelques années. Et puis oui, on a ce côté pour nous, citoyens lambda, de venir, on s'amuse, on fait la fête, mais on n'a pas souvent l'envers du décor. Alors aujourd'hui, c'est pour mettre en lumière ce magnifique travail déjà, alors qu'ils ne sont certainement pas dans les mêmes conditions que vivent les ouvriers agricoles. Et puis, pour refaire un petit peu une rétrospective de l'évolution, Elvio, vous nous avez préparé un petit teasing sur finalement l'historique des saisonniers en Suisse.
Oui, en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte quand même qu'il y a eu de la progression, mais que ça ne reste pas évident, parce que autrefois, dans les années 50, jusqu'aux années 2000, de nombreux saisonniers, surtout venus d'Italie, d'Espagne et du Portugal au début, venaient travailler en vallée. Ils occupaient des postes essentiels dans l'agriculture, l'hôtellerie ou encore sur les chantiers. Leur statut était très précaire. Ils venaient seuls, sans leur famille, et devaient quitter la Suisse après quelques mois. Ce système appelé statut saisonnier limitait fortement leurs droits, notamment en matière de logement, de regroupement familial et de sécurité sociale. Alors aujourd'hui, on peut observer en fait qu'il y a eu énormément d'évolution, mais la précarité est toujours présente. Beaucoup ne restent que quelques mois sans réelle possibilité de s'établir en fait. Et les choses ont évolué certes, mais le statut de saisonnier a été supprimé en 2002. Avec l'alcool sur, avec l'accord sur la libre, parce que j'ai entendu des trucs tout à l'heure, c'est pour ça, alors j'étais perturbé. Hein. Avec l'accord sur la libre circulation entre la Suisse et l'Union européenne, donc les travailleurs étrangers peuvent maintenant obtenir des permis de séjour plus stables. Ils ont la possibilité de vivre avec leur famille. Cela a amélioré leurs conditions de vie, mais certains défis persistent. Donc, les logements difficiles à trouver, intégration parfois compliquée et des emplois toujours saisonniers, donc précaires. J'aimerais dire en conclusion que même si la situation des saisonniers en vallée s'est nettement améliorée, notamment au niveau des droits et des conditions de vie, le travail saisonnier reste souvent exigeant et incertain.
Merci pour cette entrée en matière. Alors, on pourrait aussi rappeler que les chômages saisonniers, le chômage en Suisse présente des variations saisonnières avec des hausses typiques en hiver. En janvier 2025, le taux de chômage dans les cantons de Berne est resté stable à 2,1%, tandis qu'au niveau national, il est passé de 2,8% à 3%, reflétant ces fluctuations saisonnières. Alors ça, c'est un petit peu pour les chiffres. Merci Wilson et Gérald et Anthony qui est arrivé en bout de souffle à l'émission. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être là parmi nous. Alors déjà, on a déjà des mains qui se lèvent pour poser des questions. Alors on va donner la parole à Suzanne qui va poser la première question. Suzanne, on vous écoute.
Alors moi, j'aimerais demander où sont les Suisses qui bossent.
Pas en station.
Hein?
Pas en station. Ils ont des travails bien peinards, genre à l'hôpital de Malévaux.
Alors peut-être avant qu'on rentre, dans le vif du sujet, Wilson et Gérald, déjà est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire d'où vous venez?
Moi je suis alsacien.
Et moi Gérald, je suis de région parisienne.
Et Anthony?
Et moi Anthony, région parisienne, idem.
Alors peut-être une question qui brûle la langue de tous nos auditeurs et des gens présents, c'est qu'est-ce qui vous a amené à travailler en saison, hivernale, en station? Alors vous êtes des habitués, hein, il me semble, depuis quelques années, mais qu'est-ce qui vous amène à venir travailler comme saisonnier en montagne?
Moi, ça fait 7 ans et à la base, c'était du hasard. C'est le seul patron qui m'a répondu, c'est le seul où je n'avais pas envoyé de CV. Du coup, le hasard.
Ça, c'est quand même paradoxal. C'était une rencontre improbable.
Oui, mais j'ai écrit une belle lettre et ça lui a plu. Et il n'a pas vu mon résumé pitoyable. Donc...
Gérald, pour vous? Gérald, vous, comment vous êtes arrivé à venir travailler en station, en saison hivernale?
Moi, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'avais fait déjà des études. Après, j'ai voyagé. Après, j'ai eu un peu le mal du pays, enfin, le mal du voyage en rentrant en région parisienne. Et j'ai rencontré un ami saisonnier, puis ça avait l'air sympa. Du coup, j'ai commencé à faire une saison. À la base, c'était vraiment pour m'amuser. Et ça m'a bien plu. Du coup, j'ai continué.
Et Anthony, vu qu'on est dans la lignée des trois compères, vous travaillez dans le même, pour le même employeur, oui. Au Toupin, oui. Sur les pistes de ski des Crozets. Un coin magnifique, hein, d'ailleurs, oui. le cadre est juste exceptionnel. Une terrasse qui est une des plus belles, hein, de la région, d'ailleurs.
Face du mur suisse, exactement.
Comment vous êtes arrivé à venir travailler ici en Suisse, et notamment pour quelles raisons en hiver?
Alors moi, en Suisse, c'est grâce à une ex-copine. Mais le milieu saisonnier, pourquoi je l'ai intégré? Parce que j'en avais marre de... En fait, j'étais dans un rythme métro-boulot-dodo, comme on appelle ça, donc avec CDI, avec 5 semaines de congés par an, en France, je parle. Et j'en avais marre, donc j'ai décidé de changer de vie. J'aimais bien le ski, j'ai toujours aimé ça, la mer aussi. Donc voilà, je me suis mis dans les saisons, tout simplement, parce qu'on a l'impression d'être dans les vacances des gens. Enfin, pour ma part, c'est ça. Et c'est pas un travail à l'usine. C'est vraiment on est dans les vacances des gens. Voilà, c'est pour moi c'est très agréable.
Bah merci déjà de cet échange. Eliane, vous aviez une question à poser.
Oui, pour ces trois messieurs, quand on parle de saisonnier, on parle de quel genre de permis? Si c'est sur le permis A, je sais pas. Et surtout sur quelle période? Vous pouvez rester en Suisse.
90 jours.
Ah !
Après, Anthony, il est en permis L. Mais nous, en général, on est à moins de 90 jours. Donc,
Effectivement, ce n'est pas beaucoup.
Non.
Merci.
Merci. Elvio ?
Oui, donc vous subissez aussi la pression, en fait, du tourisme, les exigences des employeurs. Je pense quand même que c'est pas forcément évident. Lorsque vous avez terminé votre saison, vous allez plutôt en vacances vous détendre ou vous repartez pour une nouvelle saison ailleurs?
Anthony, on vous écoute.
Alors, si je peux rebondir justement sur la question de Suzanne, où sont les Suisses qui travaillent en saison? Il n'y en a pas beaucoup. Et moi, pour ma part, c'est vrai que ça me met la pression parce que quand la saison d'hiver finit, c'est facile pour nous de trouver du travail. Mais par exemple, moi qui réside à Monthey, pour retrouver du travail sur Monthey, alors c'est soit en restauration sans CFC. Et ça, c'est important parce que nous, on est français, on a des diplômes, mais côté France. Et ils nous demandent, pour la plupart, ou même changer de branche, de pas forcément travailler en restauration, mais dans des travails de manutentionnaire ou autre, on nous demande des CFC. Alors, donc pour nous, ça nous met des bâtons dans les roues, en fait, pour travailler au plus près des Suisses. Donc, c'est pour ça que dans les stations de ski en Suisse, il y a beaucoup de Français et pas beaucoup de Suisses. J'ai fait cette petite aparté.
C'est avant de revenir...
La question, oui. C'est...
Non, mais avant de revenir un peu plus loin sur les conditions de travail et les défis, à quoi ressemble une journée type dans votre travail? Parce qu'on parle de saisonnier, on parle de station, on parle de ski, mais c'est quoi une journée type quand on est saisonnier au Toupin?
Alors, Anto, il ne fait pas grand-chose, hein, à part répondre au téléphone, donc lui...
Je vois que vous êtes taquin, on voit qu'ils travaillent depuis des années ensemble et que...
c'est surtout le téléphone, donc c'est un peu la secrétaire du Toupin. Donc, non, sinon, on doit prendre la benne très tôt le matin pour aller au ski. On a de la chance de travailler sur les pistes. Du coup, on va au boulot en ski. On a le forfait qui est payé par le patron. du coup, on arrive, on fait la mise en place du matin, notre ménage.
On rigole, mais c'est important, hein, l'ambiance. On viendra aussi.
On a la chance de rigoler, on a la chance d'avoir une bonne équipe et de pouvoir rigoler toute la journée. On passe très tôt au repas du perso, donc à 11h, 11h moins le quart, ça dépend. Ensuite, on fait notre service. Ensuite, fin de journée, on rentre en ski à la maison. Après, on a de la chance, pour les saisonniers, on fait partie des mieux logés, si je puis dire. On travaille, on a des heures correctes, on a toutes nos soirées, on a le forfait payé par le patron et comme ils disent, on rigole.
Et on fume et on picole beaucoup.
Bah oui, alors on aura peut-être l'occasion de revenir là autour, mais Wilson, vous disiez oui, on rigole. Travailler en station, c'est aussi un mode de vie particulier. Comment décririez-vous l'ambiance entre saisonniers? Parce que vous disiez, bah oui, tout de suite, il y a le travail, mais on rigole.
Au début, c'est très marrant, on rigole, on apprend à se connaître, on fait la fête. Et puis plus la saison avance, plus les humeurs deviennent, on va dire, orageuses. Et les tensions naissent, et puis si je peux parler crûment, ça part en cacahuète.
Ouais, alors c'est pas très cru, hein, mais je pense qu'on aura tous compris, merci. Alain ?
Moi j'ai une question, vous êtes donc, si vous travaillez 90 jours... Ça veut dire que pour le logement, vous êtes logé par les patrons ou vous pouvez choisir votre logement ou comment ça se passe?
Alors nous, on fait partie des rares qui ont la chance en Suisse d'être logés par le patron. Mais sinon, la plupart des saisonniers doivent chercher leur logement. Donc à savoir, ceux qui travaillent sur les pistes aux Portes du Soleil, il y en a beaucoup qui habitent à Valdilier, voire montés comme le collègue Anthony juste là.
Bah oui, on a vu hein, dans l'article que je citais en début d'interview, on a des saisonniers qui habitent des fois à 10, 15 dans des, on pourrait dire des taudis, hein, dans des endroits où il y a peu de on pourrait dire, de où la promiscuité est vraiment très intense.
Hein. Comme on est allé à Verbier, c'était hier, oui. Et en fait, oui, effectivement, comme tu dis, ils vivent à 15 dans un logement prévu pour 4, 5, et ils vivent sans dessus-dessous. Dans des conditions déplorables.
Oui. Suzanne. Ouais.
Mais nous, on est des Suisses. Hein. Vous avez vu ça?
Ah non, je n'ai pas remarqué.
On est des Suisses, on a droit à la meilleure part. Alors, d'accord?
Alors, bah, c'est votre avis à vous, Suzanne.
Oui, c'est mon avis. C'est...
Mais alors, je ne sais pas si c'est meilleur ou mauvaise part. Je pense aussi qu'il y a plein de métiers que des gens ne veulent pas faire et que, heureusement, on a aussi d'autres personnes qui sont là pour pouvoir faire ce métier-là. Elvio?
Ouais, je tiens juste à rappeler aussi dans les statistiques que dans l'agriculture, donc les vendanges, récolte de fruits, le tourisme, personnel d'hôtel, de remontée mécanique, de restauration et dans la construction, chantiers estivaux ou pré-hiver, où ils doivent aller construire des barrages et tout ça, généralement, là aussi, il y a très peu de Suisses qui se portent volontaires pour aller travailler dans ce genre d'endroits.
Oui. Et puis malgré qu'on aille encore des endroits où je suis quand même content d'entendre que, en tout cas en station et là où vous travaillez, vous avez la possibilité de loger correctement, mais malgré ces avancées, il y a certains travailleurs saisonniers qui rencontrent encore des grandes difficultés, notamment, on parlait des logements, à Sion, en Valais, il y a des saisonniers qui ont dû recourir à des foyers d'urgence en raison de la crise d'urgence, et puis en restant avec des salaires qui avoisinent 15 francs de l'heure, ce qui est aujourd'hui très difficile pour trouver un logement.
Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de Suisses qui accepteraient le salaire que nous, en tant que Français, on se dit, on est très bien payé pour ce qu'on fait. Mais il n'y a pas beaucoup de Suisses qui se diraient, oui, c'est viable, en fait, avec un loyer suisse, l'assurance, tout le mode de vie suisse, en fait.
Merci, Elodie.
Alors, j'ai une question pour Wilson et Gérald. Parce que vous rentrez en France à la fin des 90 jours, enfin, en Alsace et à Paris? Enfin, en région parisienne?
Moi, je ne sais pas. GG.
Moi, en général, oui. Bon, après, tous les saisonniers rentrent chez eux. Et bon, en général, ils ont déjà préparé la saison d'été. Mais en général, oui, on rentre chez nous en région parisienne. Sinon, si on continue à vivre en Suisse avec le salaire qu'on avait, ce n'est pas viable, comme on disait.
Merci. Elvio?
Oui, alors j'aimerais justement revenir avec ma question de tout à l'heure. C'est est-ce que vous préparez justement votre saison estivale? Donc, est-ce que vous prenez plutôt du temps pour vous, des vacances, ou est-ce que vous vous engagez dans d'autres lieux de saisonniers?
Ça dépend. L'année dernière, j'étais au Kyrgyzstan. Il y a 2 ans, j'étais au Laos. Et là, cette année, je ne sais pas. On verra. Donc non, c'est complètement aléatoire. Mais Anthony, par exemple, il aime bien rester ici.
Anthony, si vous avez envie de peut-être de répondre à la question de
Moi,
Delvio.
C'est que maintenant ma vie est là, j'ai ma copine et voilà, j'attends un bébé.
D'ailleurs, on la félicite, on vous félicite, bravo, on lui fait un petit clin d'œil.
Comme ça, j'aurai les papiers.
Ah, voilà. Anthony, je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, on peut que vous souhaiter plein de bonheur avec l'arrivée, parce que c'est aussi un boulot intense que devenir papa. Le rythme est souvent soutenu en saison. Comment vous faites le coup pour tenir? Parce que vous avez parlé, on sait très bien que dans toute restauration, hôtellerie, les clients peuvent être des fois sympas, drôles, mais on sait que des fois, il y a des rushs. Comment vous faites pour tenir avec ces heures intenses?
La drogue et l'alcool.
Alors c'est vrai. Hein, alors là, on bien sûr qu'il y a cette petite boutade et c'est rigolo, mais c'est vrai. Les chiffres, les statistiques démontrent que il y a énormément de consommation d'alcool et de stupéfiants, que ce soit par les ceux qui profitent sur les pistes, mais aussi pour ceux qui travaillent. Comment vous gérez, comment vous vivez avec cette réalité-là? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être tout le temps évident de travailler et d'être des fois dans des rythmes complètement différents. Alors, je sais pas, Anthony.
Alors, bah, du coup, je vais commencer pour moi. Je suis cocaïnomane, on va le dire. Donc j'ai plusieurs années de consommation, ça va être tous les jours, alors à petite dose, mais voilà, c'est vrai que moi j'arrive plus à faire la part des choses entre prendre au travail et travailler, enfin c'est vraiment devenu, pour moi tout est lié, en plus de ça bah, l'alcool se rajoute, donc moi c'est pour ça que j'ai décidé de me faire suivre à Malévo à partir du 15 avril. Pour m'en sortir, tout simplement parce que ça coûte sur la santé, et puis au final c'est pas une vie quoi.
Non, mais merci déjà de votre authenticité, puis ça demande du courage hein, de pouvoir en parler, mais c'est aussi peut-être une force pour nos bénéficiaires de soins qui sont là, de se dire bah oui, il y a des gens qui travaillent et qui vivent aussi avec des difficultés, des problèmes, des consommations, et qu'on doit tous faire au mieux pour aller, parce que j'imagine que tous les jours, nous ce qu'on voit pas à l'envers du décor, parce que nous on se voit régulièrement, nous on vient faire la fête le week-end, mais on oublie que pour tous les jours, c'est la fête pour les personnes qui sont là, donc moi, je peux m'imaginer, allez, je vais faire la fête, je vous offre un verre. On est un peu complice, peut-être, sans s'en rendre compte, parce que nous, on n'y va que les dimanches. On se dit, allez, vas-y, bois un petit verre, je t'offre un verre. Parce que nous, on s'imagine qu'on est juste là un jour. Mais en fait, vous vivez ça au quotidien. Vous avez tous les jours certainement des gens qui vous proposent gratuitement un verre et qui, peut-être inconsciemment, ne se rendent pas compte qu'ils viennent être un peu complices de cette peut-être début de difficulté ou de dépendance ou pas, Gérald.
Je dirais plutôt qu'on est des grands athlètes de l'alcoolisme. Donc ça se voit pas beaucoup et non mais après c'est plus un mode de vie et en vrai on s'adapte très vite à ce mode de vie hein, ce mode de vie de faire la fête et puis après c'est reparti le lendemain et puis même pendant un moment j'ai envie de dire c'est ça qui nous tient comme disait Wilson c'est plus les drogues qui nous tiennent parce que vous nous voyez tous les jours avec le sourire mais c'est pas tous les jours on a chacun aussi nos problèmes, on est des humains hein. C'est sûr. Que justement comme disait Anthony, nous l'avantage c'est qu'on vous voit dans vos vacances, donc vous êtes joyeux, donc nous aussi on est. Vous ne voyez pas l'envers du décor, mais après, c'est aussi... d'ailleurs, c'est un métier qu'on adore faire juste pour ça, pour partager
ses
joies.
Les rencontres, les moments.
Voilà, c'est bonne... Voilà, on ne fait pas ça pour la drogue et tout ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça permet de tenir. Et j'ai déjà eu un patron qui m'a dit, j'ai déjà essayé de chercher des employés normaux qui prenaient rien, t'en trouves pas. Ou sinon, au bout d'un mois, ils démissionnent parce que le travail est trop dur, les conditions de logement sont dures, et puis tout est intense, à savoir qu'on est là avec les collègues pendant 3-4 mois à se supporter alors qu'on ne se connaît pas forcément, à faire une colocation, à se voir le matin, midi, soir au boulot, à se voir le soir au bar. C'est quand même un rythme de vie pas facile à assumer, on va dire.
Merci, Suzanne.
Moi, je dirais que ça, c'est quand même du volontaire. C'est quelque chose de volontaire. C'est pas comme la maladie qui est involontaire et qui donne des situations où c'est difficile, parce que quand c'est volontaire, on se pète la gueule, on se drogue et tout, c'est quand même la responsabilité, elle est à soi-même, on est d'accord hein, donc oui, mais par contre quand on veut s'en sortir eh bien, ça, c'est déjà un pas pour sortir de cette responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là pour aider, mais il y a aussi du monde pour taper sur le clou. Alors, il faut trier aussi. Parce que même si les gens sont dans une unité de soins, eh bien, il y a des gens qui vont aider à sortir le clou et d'autres qui vont aider à peser dessus. Et je pense à monsieur l'ambulancier, là, qu'on hésite des fois à faire le 144 parce qu'on se dit, oui, ça va coûter sur l'assurance, ça va nous coûter une blinde. Et puis, voilà, on ne veut pas passer pour... Eh bien, finalement, moi, il n'y a pas plus tard que 2 jours, je l'ai appelé une nuit. Et j'ai dit simplement, j'ai plus envie de vivre, mais j'avais... Non, non, non. C'est ça que je veux dire. Un ambulancier, Jimmy, un ambulancier est là, vous me direz le contraire, monsieur, qui est là pour soutenir, pour comprendre le problème... Et puis, pour encourager.
Mais vous avez raison, Suzanne, là où je vous rejoins, c'est que quand on a besoin de soutien, bah, il ne faut pas avoir peur d'aller demander l'aide, comme Anthony qui nous dit clairement, bah, oui, pour moi, ça a été une grande difficulté, c'est une difficulté, je vais bientôt être papa, j'ai envie de pouvoir reprendre et de me redéfinir, reprendre les rênes de ma vie pour être bien, et donc je vais demander du soutien. Donc oui, il faut aller demander du soutien, vous avez raison. Alain.
Alors moi... Ben, je suis père praticien, donc c'est-à-dire que j'utilise mon parcours de vie et je tiens tout de suite à rentrer dans ce que tu viens de dire, Suzanne, parce que la consommation de drogue, ce n'est pas du tout un choix. On peut dire peut-être la première fois où il y a eu la consommation de drogue, ça peut-être été un choix. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça dans la vie qui font que la personne... va consommer.
Oui.
Pour tenir le rythme du travail, pour plein de choses,
pour fuir,
pour se déconnecter un moment de la vie. Et une fois que notre cerveau a fait le travail, c'est très difficile de repartir en arrière.
Et comme vous avez raison, Alain, mais comme des fois aussi par plaisir. Hein, il y a des gens aussi qui ont commencé à consommer par plaisir, pour rechercher des choses, introspectif, pour se mettre en état de... Et puis, il y a toujours ces mêmes problèmes. La relation à l'objet, finalement. Est-ce que je le fais parce que je suis dans un contexte qui me permet de le faire? Je le fais dans une recherche particulière. Et puis, de ne pas voir que petit à petit, bah, c'est un peu la poudre aux yeux et que ça devient insidieux et puis qu'au bout d'un moment on se rend plus compte qu'on n'a plus besoin de ça pour le plaisir mais qu'on a besoin de ça pour fonctionner. Hein.
Il y a même un ancien médecin de Genève qui avait ses propos qui disait que ben, d'arrêter la drogue c'était facile et pour le démontrer il a consommé, il a commencé à faire des injections d'héroïne, il lui a fallu 10 ans pour arriver à arrêter et c'est une personne qui a un terreau, donc il a du travail, il a des amis, il a vraiment tout pour plaire, donc toutes les facilités pour arrêter. Et il lui a fallu 10 ans pour arrêter. Donc quand vous avez un travail précaire, un logement précaire, c'est très difficile.
Vous avez raison, Wilson, vous avez envie de rebondir ?
Oui, je pensais juste que c'était quelqu'un d'intelligent qui avait un cerveau fonctionnel à la base. Donc s'il lui faut 10 ans à un homme comme ça, ouais, qu'est-ce qu'il faut aux petites gens comme nous,
ou à ceux qui
ont français de bas étage.
Non, ou à ceux qui n'ont pas eu les modèles, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir
juste faire les gens fragiles, qui ont un historique.
Exactement. Ouais. Ouais. Et, souvent, on dit, hein, l'héroïne, souvent, les gens, ils le prennent pour le premier shoot, puis il est là, boire. Mais après, il n'y a plus. Ils le prennent et ils font ça pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir se lever le matin et arriver à aller travailler. Il n'y a plus réellement de notion de plaisir. Et ça permet de rappeler aussi que l'OMS, elle classifie quand même les drogues au niveau d'intensité. Je rappelle que l'alcool est celle qui est classée au premier degré de dépendance et de difficulté. Pour les héroïnomanes, ils le disent souvent, c'est plus facile d'arrêter l'héroïne que d'arrêter l'alcool. Hein,
et l'alcool, c'est la seule drogue où on meurt du manque.
Oui, Clairement, exactement. Donc voilà. Mais on va peut-être aussi se poser la question.
On peut mourir d'une maladie psychique aussi.
On peut mourir d'une maladie psychique. Moi, ce que j'avais comme question à vous poser, c'est que est-ce que vous êtes sensibilisé à ce que, parce qu'on parle des problèmes de drogue, on a parlé aussi des problèmes de logement, on parle aussi dans ce domaine-là des saisonniers, de la problématique de ce qu'on appelle la traite des êtres humains. Est-ce que vous avez vu autour de vous des gens qui étaient exploités? Est-ce qu'il y a du travail illégal? Est-ce qu'il y a des gens qu'on pousse à travailler de manière au point de, au bout d'un moment, devoir peut-être avoir recours à des produits pour tenir le coup?
Alors, pour moi, en Suisse, c'est assez limité par rapport à d'autres pays, mais ça existe quand même. Je pense que nous, comme on dit, on est bien lotis, mais d'autres restaurants, par exemple, je ne veux pas citer.
Non. Alors non, sans citer, non, mais il y a d'autres endroits.
Oui, d'autres endroits, oui, même à Verbier. En fait, ils jouent sur le fait que la plupart du temps, les saisonniers, ils viennent là, ils n'ont pas d'argent, donc ils sont dans la merde, pardon. Mais ils n'ont pas le choix de prendre le métier et de finir la saison s'ils veulent avoir un minimum pour survivre. Quoi.
Elvio
L'année dernière, j'ai une amie, en fait, qui, son amie a vu, en fait, des gens camper sous le tunnel, non, sous le pont de Ried, en fait. Et puis, il s'est intéressé, il a été voir, il a été discuter. Donc, c'était des personnes grecques qui ne parlaient pas français, qui étaient venues faire les effeuilles. Donc, les gens qui ont des vignes savent ce que c'est. Hein, on doit aller, voilà. Et donc, c'est un travail très laborieux, mais ils n'avaient aucun logement. Ils étaient en train de camper et du coup, cet ami et son ami leur ont amené à manger et de quoi se subsister. Donc, en fait, il y a quand même encore énormément, j'imagine, de d'irrégularité, en fait, dans les emplois saisonniers.
Oui, et puis personne n'est égal, Wilson.
Surtout plus dans le monde agricole, je pense que, comme nous, en restauration, on doit quand même être un minimum présentable.
Oui, c'est vrai que c'est quand même deux mondes différents. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'association Avit? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Avit? Anthony?
Non.
Avit, alors vous pouvez aller sur internet, taper avit.ch, et l'association valaisanne de soutien aux victimes et témoins de traite des êtres humains, créée à cet effet en fin 2023 sous l'impulsion du conseiller d'État Mathias Reynard. L'association Avit s'investit depuis pour accorder une attention particulière aux femmes, aux hommes et aux mineurs qui subissent des atteintes à leurs droits et leur dignité. Parce qu'on parle de ça, hein, donc je vous invite peut-être, là aussi, on peut dire, mais comment on pourrait faire changer les choses? Simplement, ça pourrait être aussi de prendre son courage à deux mains et de dénoncer. Alors, je parle pas que les Suisses sont les rois de la délation. Bien au contraire, je pense qu'on a une responsabilité sociale et sociétale de quand on sait qu'à côté, on a des gens qui vivent dans un immeuble où ils sont entassés dans une cave à 10 pour payer chacun 450 francs la chambre. C'est juste inadmissible et qu'on se doit peut-être, en tant qu'humain et responsable, de mettre en focus de manière les plus sécuritaires possibles ces conditions de travail. En tout cas, merci. Moi, j'avais une dernière question à vous poser avant qu'on avance dans l'émission. De quoi vous auriez besoin pour améliorer vos conditions de travail?
1 million d'euros.
1 million d'euros, d'accord. Bon, alors là, ça veut dire le salaire, oui. Wilson?
Non, moi, je suis content. Je suis très heureux en Suisse. C'est un super pays.
Attends, bien. Et Anthony?
Je n'ai pas de requête particulière pour
l'instant. Bon, voilà. Alors, en tout cas, messieurs, je vous remercie d'avoir été présentes. Présentes, ça y est, je vous parle comme si vous étiez des filles. Mais présents à l'émission aujourd'hui pour répondre à nos questions. Merci d'avoir joué le jeu. Merci de vous être livrés. Hein. C'est jamais évident de se livrer aussi crûment ou simplement. En tout cas, merci. C'est aussi ça, Pavillon de Man. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants après la chanson de The Slayer, Wish That I Could Talk to you.
I can talk to you, baby, so that I can let you know. I wish that I can talk.
Direct.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade après ces super échanges au niveau du printemps et surtout ces bels échanges authentiques, pleins de sensibilité autour de nos invités du jour, Gérald et Wilson. On va passer aux rencontres du Marie-Claude. Tous les jeudis, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne. Alors, juste un instant, parce que si je lis le mauvais mémo, ça ira pas très bien. Tous les jeudis, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, cinquième épisode avec Philippe Rébellet. Philippe Rébellet connaît bien Malévo. Il a passé une partie de son enfance, puisque son père était directeur. Philippe a aussi travaillé à Malévo et actuellement, il est directeur médical de la Fondation de Nant, dans le canton de Vaud. Il revient notamment sur la période de la pandémie et ses conséquences sur la jeunesse.
Les rencontres de Marie-Claude.
Ce qui avait été frappant pour moi au début de la pandémie, c'est parce que c'était presque comme si on avait réintroduit dans nos sociétés comme ça, qui sont un peu dans cette espèce de paradigme de croissance continue où il y a une espèce d'omnipotence totale, hein, où on avait chassé la mort quasiment de nos sociétés. Et c'est comme si on avait redécouvert au moment de la pandémie qu'on était mortel. Hein. Et je pense effectivement que ça a cassé un élan, et probablement particulièrement pour des enfants, des adolescents qui étaient justement dans ce moment où on doit sortir du milieu familial, où on doit s'ouvrir au monde. Et ça, ça a mis un coup de frein, et puis ça a peut-être mis aussi en lumière l'absurdité de nos sociétés contemporaines avec cette folie d'une croissance continue. Pour moi, cette croissance continue, si vous voulez, enfin, je le dis parce que je pense que c'est très malsain en termes psychiques d'être dans quelque chose comme ça, du plus, parce qu'on est tout le temps dans une insatisfaction. Ce qui procure du plaisir dans l'existence, c'est toute cette subtile mécanique du désir où on a besoin d'attendre, de s'imaginer ce qu'on va avoir. C'est pas le moment où on va posséder une chose qu'on a le plus de plaisir, hein. C'est dans le moment de tension vers. Et je pense que nos sociétés comme ça, dans cette espèce de mythe de croissance effrénée, hein, alors qui culmine en ce moment avec comme ça tous ces abrutis néolibéraux qui sont d'une bêtise et d'une violence crasse en plus, ça met beaucoup à mal le fonctionnement psychique de l'être humain. Et ben, là encore, ça revient peut-être, je ne suis pas en train de faire un discours politique, hein, encore que. Mais je pense qu'on a beaucoup de ces déterminants qui ont une influence absolument majeure sur la santé psychique. Moi, j'ai le moment le plus grand désespoir, hein, autour de la pandémie. Ça n'a pas été pendant la pandémie, parce que pourtant c'était un gros bordel. On a dû réorganiser, je ne sais pas combien de fois, l'hôpital. Enfin, c'était horriblement compliqué. Mais ça a été à la fin de la pandémie. Et dès le lendemain, on a recommencé à parler de croissance, on est reparti exactement comme avant, comme si on n'avait strictement rien appris de ça. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné un moment, alors, de profond désespoir, je dois dire, de constater qu'on n'avait rien appris de choses comme ça.
Oui, et je crois que c'est un désespoir partagé par beaucoup de monde, parce qu'effectivement, on se disait, mais ok, on recommence comme avant.
Oui, oui, oui. Alors ça, je pense que pour moi, ça, c'est la vraie folie. Mais pas la folie qu'on trouve à Malévo. Parce qu'à Malévo, on trouve de la souffrance. Dans un hôpital psychiatrique, on trouve une, pas de la folie, on trouve une profonde souffrance. Par contre, ça, c'est vraiment un délire grave. Et tout ça, ça a un impact majeur pour moi sur la santé psychique. Hein. Si on a longtemps parlé d'approche biopsychosociale, enfin, c'est une manière très sommaire, très grossière d'appréhender la complexité du monde, mais avec quand même cette idée de ne pas chercher à la réduire. Et ces déterminants sociaux sont extrêmement importants dans l'expression de la souffrance psychique.
Cette souffrance, elle a évolué au fil du temps. Quand on prend peut-être les débuts de Malévo, où effectivement les gens restaient des semaines, des mois, voire à vie, c'était lié aussi peut-être à une souffrance qui est différente de celle qu'on peut avoir maintenant quand même. Hein.
Je suis très partagé là-dessus. Je ne sais pas si on prend certains troubles graves comme les psychoses ou des choses comme ça. Je pense que la souffrance, elle n'a pas forcément beaucoup changé. Hein. Je pense qu'il y a aussi quand même... des choses qui ont concouru à une évolution, c'est qu'on a une beaucoup plus grande attention à la question de la souffrance psychique de nos jours qu'on pouvait l'avoir au préalable. Vous vous rappeliez, ben avant, les gens restaient des mois, des années, voire à vie. C'était quand même dans une volonté de mettre à l'écart. On mettait à l'écart le fou, l'indigent, enfin tout ce qui dérangeait la société. Enfin, si Malévo se situait là, c'est parce que Malévo n'avait pas été désiré dans la capitale, la Sion, à l'époque. Hein. On avait refilé un terrain pourri au fin fond du Valais, enfin, si on parle du point de vue des Sédunois. Et puis encore, ce n'était pas au centre de Monthey. Maintenant, c'est quasiment à côté de la place Monthey. Mais c'était à l'époque, hein, sauf erreur, Malévo, ça vient de mauvaises eaux. C'était le terrain pourri au bout du village où on avait mis. Donc là, on était dans cette volonté de mise à l'écart. Et je pense que c'est difficile de comparer les choses. Parce que alors qu'on a de plus en plus de moyens, qu'on a pu développer des techniques thérapeutiques aussi beaucoup plus efficace, on a pourtant l'impression que la question de la souffrance psychique, elle n'arrête pas d'augmenter. C'est d'ailleurs un des principaux poids sur les systèmes de santé au niveau mondial. Hein, de nombreuses études nous le montrent bien. Et ça, c'est difficile à comprendre pourquoi. Moi, j'ai l'impression que là, c'est quand même des difficultés aussi d'adaptation à un monde qui, par certains égards, pourrait devenir de plus en plus inhumain. Si on a des sociétés qui nous poussent à rester tout le temps jeunes, beaux, efficaces, rapides, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas propice à la santé mentale, parce qu'on est dans le plus, dans la performance, et donc, dès le moment où on n'est pas parfait, on a un sentiment d'échec.
Cette avant-dernière rencontre avec Philippe Rébellet était proposée par Marie-Claude Cudry. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien sur le site pavillonnomade.ch une fois le dernier opus diffusé. Alors, on a entendu, éditeur, auditrice et invité du jour et présent autour de la table, le docteur Rébellet qui parlait quand même de chasser la mort de notre société, de un peu comme si on l'avait oublié, hein, c'est vrai. Hein, j'en discutais une fois avec des amis, des proches. En fait, on est issu d'une génération, pour en tout cas une des plus jeunes, où on n'a jamais connu réellement de gros problèmes. Les derniers gros soucis pour nos grands-parents, mes grands-parents ou mes parents qui ont connu, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Entre les deux, il n'y a pas eu d'événements comme ça qui nous ont rappelé qu'on pouvait mourir. Et c'est vrai que la pandémie nous a ramené à une certaine réalité. Hein. Il parle aussi que ça a cassé l'élan des jeunes. Alors, on a des plus ou moins jeunes autour de la table. On verra s'ils veulent s'exprimer autour. Et puis, surtout qu'on n'a rien appris de nos erreurs et d'une société qui devient de plus en plus inhumaine, qui nous dit des diktats de la jeunesse, de la performance, et qui font qu'aujourd'hui, bah voilà, on répète sans cesse peut-être des erreurs qu'on a déjà eues. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de rebondir autour de cette problématique. Thomas, vous êtes parmi les plus jeunes autour de la table. Comment vous avez vécu cette période de pandémie et quel lien vous faites avec ce que le docteur Rébellet nous a expliqué?
Merci. Alors, à l'époque, j'étais un peu au cœur de l'action. Moi, j'étais assistant en soins à l'hôpital du Valais. Alors, c'est vrai que j'étais vraiment tout proche des patients atteints de cette maladie. Alors, c'était d'un côté assez intéressant, je trouve, de participer à ça et de faire ça. On avait quand même un peu l'impression d'amener notre pierre à l'édifice de l'intérieur. Par contre, il dit qu'on est reparti dans la même folie qu'avant, mais je nuancerais un peu ça. J'ai quand même l'impression qu'énormément de gens aujourd'hui se sont tournés peut-être plus que jamais à faire du jardinage. On voit qu'il y a énormément d'essor d'un peu de la van life. Ça. Donc les gens ont envie d'être un peu plus autonomes, un petit peu plus seuls. Je ne sais pas, quelques années comme ça, j'ai même plutôt l'impression qu'on retrouve à des choses simples en se disant ben voilà, il y a toujours quelque chose qui peut nous retomber dessus, on pourrait de nouveau être enfermé. Eh bien, là, beaucoup de gens ont envie d'avoir leur petit coin de paradis, leur petit mayen, leur van ben, pour partir, pour être un peu plus libre. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une évolution des mentalités comme ça, d'un point de vue. Je dirais un petit peu social comme ça entre nous. Alors non, c'est clair que si on regarde les grandes entreprises et tout, c'est reparti de plus belle, mais les gens, j'ai l'impression, autour de moi, comme ça, ont un petit peu évolué dans ce sens-là.
Ben, merci de votre échange, Elvio.
Oui, ben alors, moi, je rejoins ce que dit Thomas, et je trouve que le Covid, en fait, a développé chez certaines personnes, en fait, des passionnés du jardin, des passionnés en fait de la nature, des passionnés de marche, des passionnés de... parce qu'en fait l'individu a dû s'occuper. On a eu la chance en tout cas en Valais de pouvoir être à proximité des forêts, donc de sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires, donc ont un jardin. Et grâce au Covid aussi, ces gens se sont émancipés en découvrant aussi des passions personnelles qu'ils ne redoutaient même pas.
Ouais, vous avez raison, ça a permis de redécouvrir peut-être, de se redéfinir. Par contre, moi, j'ai pas tellement vécu. On a quand même pas tous été en Europe ou dans le monde à la même enseigne concernant la pandémie et finalement le confinement. Parce que moi, le souvenir que j'ai de cette période-là, oui, alors bien sûr, on a travaillé, on a dû faire attention, porter des masques. Mais moi, je me suis retrouvé tous les week-ends au raid avec 50 à 30 personnes qui étaient là. On était en train de faire la fête, danser, on était à l'extérieur. Et puis, je téléphonais le soir à des amis qui habitaient en Belgique ou en France qui me disaient, mais Jim, on a vu tes photos, mais on vit pas dans le même monde. Alors c'est vrai, moi, des fois, je me dis, bah voilà, suivant où on était peut-être sur la partie de la Terre où les conditions étaient différentes, moi, j'ai pas senti. Alors bien sûr qu'il y a eu un changement radical dans la prise de conscience de oui, le monde peut changer d'un instant à l'autre, hein, et d'en prendre conscience, ça c'était important. Mais c'est vrai que tout est relatif. Eliane.
Oui, je voulais rebondir sur ce que vous dites, Jimmy et Elvio. Moi, j'habite en fait à la montagne et je n'ai absolument pas eu ce problème de pandémie parce que ben il y avait des petits commerces qui étaient encore ouverts, on mettait pas les masques. Et puis dans le village, ben voilà, on se promenait sans masque. J'ai absolument pas eu de problème avec ce Covid.
Ben, merci de vos témoignages. Je ne sais pas si nos invités du jour, Wilson et Gégé, Gérald, alias Gérald, alias Gégé, oui, et Anthony, comment vous avez vécu, vous, cette pandémie ?
Moi, je l'ai vécu à Val d'Isère, donc en saison. Donc, du jour au lendemain, ils faisaient monter voilà, tous les touristes en station parce que voilà, il y avait encore un roulement. La station, donc, tout a fermé du jour au lendemain. À minuit, nous en France, c'était assez strict quand même, parce qu'on devait le confinement, on devait se signer un papier à soi-même pour pouvoir sortir une heure par jour. Donc nous, moi, j'avais de la chance, j'étais en montagne, mais les gens qui étaient en ville, enfin à un moment donné, c'était le jeu du chat et de la souris avec la police, parce que c'était quand même ridicule de signer un papier à soi-même pour une heure de sortie. Pour prétexter des achats ou alors une balade. Enfin, pour moi, c'était très compliqué. Bah, j'ai été oisif pendant toute la durée du confinement. Donc, j'ai exploré tous les angles de mon lit, les positions différentes, tout ce qu'on pouvait. Voilà, quoi. Il y avait rien à faire. Moi, sortir dehors, c'était pas possible parce qu'on jouait une fois, deux fois, on se fait gauler par la police, on se prend des amendes et puis après. Bon, on arrête, quoi.
Et est-ce que cette période vous a changé dans votre manière de penser ? Est-ce que ça a atteint aussi votre psyché, votre état mental ? Est-ce qu'il y a eu des répercussions ? Je vois qu'il y a Gérald, alias Gégé, qui hoche de la tête. On vous écoute, Gérald.
Bah, moi, du coup, ça m'a permis de venir en Suisse. Parce que nous, en France, comme disait Anto, bah, ils ont fermé en plein milieu de la saison. Pas en plein milieu, mais plein milieu du mois de mars, ils ont fermé les stations. Et l'hiver qui a suivi, ils ont fermé de nouveau les stations. Donc ça m'a permis, entre guillemets, bah, c'était un mal pour un bien. Du coup, j'ai appelé le monde des saisonniers, c'est très petit. Hein. Tu passes 2-3 coups de fil et j'avais des amis qui étaient en Suisse et ça m'a permis de venir en Suisse et de ne pas me faire vacciner parce que la vaccination n'était pas obligatoire, même en travaillant en restauration.
Ouais, merci. Et Wilson, pour vous ?
Pour moi, il y a eu un avant-après Covid. Et en fait, c'est quand même un truc de rupture entre... On parlait de la Seconde Guerre mondiale avant. Il y a eu une grosse période de paix. Et le Covid, c'était rupture. Et là, on est rentré dans un nouveau monde. Et pour l'instant, on n'en connaît pas encore vraiment tous les contours et toutes les prérogatives.
Ouais, en tout cas, ça laisse encore couler beaucoup d'encre, malgré tout, malgré ces quelques années déjà de passé. Je vous propose qu'on se retrouve pour notre dernière partie après une chanson de Daft Punk qui s'intitule « Veridis Quo ».
Direct.
De retour en direct dans les studios de Pavillon Nomade. J'espère, auditeurs, auditrices, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on passe un très bon moment, en très bonne compagnie. Hein. On a eu l'occasion de parler d'émotions, de parler de situations qui ont été énoncées de manière très libre en pensant à cette authenticité d'Anthony que je remercie. D'ailleurs, Elvio, aujourd'hui, vous nous avez aussi proposé d'inviter Alain. Est-ce que vous voulez nous l'introduire en quelques mots ?
Alors, volontiers, oui, Alain, c'est quelqu'un de merveilleux que j'ai connu au cours, donc qui fait les cours de père praticien avec moi à Lausanne. Et quand je lui ai parlé du mode de fonctionnement du quartier culturel, quand je lui ai parlé de notre radio, alors là, les yeux se sont illuminés et il a eu envie de venir vivre et participer à l'expérience radio. Donc, je l'invite volontiers à se présenter, Alain.
Bonjour Alain.
Alors... Bonjour Alain. Bonjour à tous et puis bonjour dans les pavillons. Alors moi, je suis Alain, je suis un cabossé. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai un peu réussi à redresser le manche. Et il y a 3 ans, j'ai appris ce que c'était la formation de père praticien en santé mentale. Et je me suis dit que mon parcours pouvait aider les personnes en souffrance. Et j'ai commencé des études et je suis on peut dire ça, appuyé par une association qui s'appelle Itinéraire, qui est dans le Jura, Jura-Bernois et le canton de Neuchâtel.
Mais c'est... je n'ai pas compris le nom.
Itinéraire. Et ils sont... c'est une équipe mobile pour essayer de garder les gens en décrochage dans le système de soins. Donc, c'est beaucoup des gens qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, mais aussi des personnes âgées qui sont isolées. Et donc, on s'occupe de les garder dans le système de soins.
Eliane ?
Oui, merci Alain pour ce témoignage. En fait, ce n'est pas forcément des gens qui sont hospitalisés que vous côtoyez ou bien ?
Alors non, c'est plutôt justement des gens qui sont en rupture, qui ne croient plus en la santé, qui ne croient plus aux médecins et qui ont vraiment du mal à suivre leur traitement et à aller mieux. Donc on essaye de personnaliser un peu le soutien à ces personnes et à donner ce que la personne veut et pas ce que le médecin ou la fondation veut. Et c'est de là que je peux travailler en tant qu'ancien ancien toxicomane et malade. J'ai un TDAH. Et voilà. Donc,
si j'ai bien compris, Alain, en fait, vous vous rendez chez les gens. Oui. Ou c'est eux qui viennent ?
Alors, les deux. Mais on se déplace, on se déplace, on fait des points dans les villes, dans les gares. On va rencontrer les gens pour justement ces personnes qui ont une aversion de la santé, qui ont tellement été de fois trompées, mal reçues, pour stigmatisées pour X raisons, comme on disait, parce que t'es étranger, parce que un toxicomane, parce que t'es un alcoolique, ben on te regarde d'une autre façon. Et certaines personnes en ont tellement marre que ben elles décrochent.
Et alors, comme le décrit l'association, hein, je suis allé voir pendant que vous nous expliquiez un petit peu tout ça sur le site. Si vous voulez aller sur le site itinéraire.ch, exactement itinéraire-santé.ch. Et bien nous sommes préoccupés par la situation des citoyens touchés par la paupérisation, la précarité, l'isolement et la solitude et les addictions. Ces personnes portent souvent le poids de plusieurs déterminants sociaux de la santé. Cela conduit à des inéquités dans les soins, à l'accès aux soins. Les conséquences sont dramatiques individuellement pour ces maladies évitables et collectivement par les coûts de santé énormes aussi évitables par une intervention plus précoce auprès des personnes malades à risque de l'être. Donc ça reste quand même une super association, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de grandes villes, il y a des fois des lieux comme certains squats où on a une population de gens qui sont en souffrance psychique, hein, que ce soit en lien avec des cassures de vie, des souffrances qui font qu'ils consomment et qui sont livrés un peu à eux-mêmes. Et puis finalement, on les laisse un peu dans leur coin et puis il n'y a aucun soutien. Et cette association va pour les aider, leur proposer à les soutenir et à les réinsérer certainement et surtout à reprendre. À se redéfinir en tant qu'humain et non pas juste un paria de la société.
Oui, c'est exactement ça. C'est redonner un petit peu d'espoir. Et puis souvent, il ne manque pas grand-chose. Il faut juste avoir un peu confiance et puis tomber sur la bonne personne. Et dans la région où j'habite, c'est un peu comme le Valais. Il y a des zones qui sont... si vous êtes dans une grande ville, ça va. Mais dès que vous éloignez un peu des grandes villes, il n'y a plus rien. Et quand vous êtes dans la détresse, c'est vite très compliqué.
Bien sûr, on parle de désert médical, on parle de désert de beaucoup d'instructions, infrastructures. Hein. On a de plus en plus peut-être de petits villages où on a de moins en moins de coiffeurs, de moins en moins de postes, de moins en moins de soins, d'accessibilité. Et qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir des associations qui militent et qui vont à la rencontre des personnes en besoin. En tout cas, on remercie ces associations. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aurait une question à poser à Alain encore. Le temps avance. On grappille déjà sur les minutes de l'émission. Élodie, on vous écoute.
Oui. Pardon. J'ai une question parce que donc, cette association, c'est simplement dans le canton de Neuchâtel et puis le Jura-Bernois.
Alors oui, et pour le moment, c'est un projet pilote qui est pour le moment soutenu par Santé Suisse, mais à partir de l'année prochaine, déjà, ils vont devoir trouver un financement privé. Et pour le moment, c'est déjà que dans ces deux cantons, on va dire trois cantons avec Berne, mais c'est déjà assez compliqué. Il y a beaucoup de querelles de clochers où la santé est une chose où il y a énormément d'argent et où certaines personnes ne veulent pas lâcher cet argent parce qu'ils pensent qu'il leur appartient. Donc dès que vous essayez un peu de... Ils ont peur qu'on marche sur leur plate-bande. Mais pourquoi pas, ça peut peut-être s'ouvrir après à plusieurs endroits.
D'accord. Et puis pour rentrer dans cette association ou...
Pour les travailleurs, ben c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Quand ils ont de nouveaux besoins de monde, ben ils engagent du monde. Je pense même que ça va se faire d'ici très peu. Et pour les bénéficiaires, il suffit de téléphoner, de passer, de venir quand on est avec un bus en déplacement. Il suffit de s'approcher et puis de parler. Et après, ben, le lien se fait. Voilà.
Ah bah c'est bon à savoir.
Merci beaucoup. Ouais. Très belle initiative pour ce projet pilote. On leur donne toute notre énergie. Si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver plus d'informations sur itinéraire-santé.ch. Thomas ?
Oui, alors moi, je voulais savoir, parce que je ne connais pas du tout, c'est quoi un père praticien ?
Alors, un père praticien, on utilise le parcours de maladie de la personne pour aider les personnes qui sont en souffrance. Donc moi, j'aime bien l'appeler un peu un traducteur entre le milieu médical professionnel et le demandeur d'aide. Souvent, comme je disais avant, il y a eu des stigmatisations, des choses comme ça, des incompréhensions qui ont été faites. Et le fait d'avoir quelqu'un pour le patient qui a eu un parcours aussi difficile, il se revoit un peu dans cette chose-là, il prend souvent plus facilement confiance. Et pour les soignants, ils voient aussi que ben, ça facilite le dialogue souvent entre les équipes.
Voilà. Ouais, bah c'est une très belle explication de ce qu'est le père praticien. Merci Thomas d'avoir posé la question parce qu'on en avait déjà parlé il y a quelques mois en arrière. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas peut-être participé à l'émission ou entendu. Là aussi, vous pouvez aller, si vous êtes intéressé, sur Internet, vous tapez père praticien ou vous tapez rétablissement et vous allez voir, il y a des super explications et il y a un travail extraordinaire. D'ailleurs, on milite avec Elvio. Et d'ailleurs, Elvio, vous avez l'occasion de pouvoir mettre en place prochainement, dans le cadre de l'hôpital ici à Malévaux, un début, on pourrait dire, de mettre un pied grâce à votre formation et au projet que vous devez faire lors de votre formation.
Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été amené en fin de cette année. On a touché déjà le sujet donc des rencontres individuelles et en groupe non thérapeutique. Et suite à ça, par rapport à des objectifs fixés l'année prochaine, justement, j'ai sollicité l'hôpital pour commencer à ouvrir mon champ de compétences et créer ce genre de groupe, en fait, en lien avec le quartier culturel et puis l'hôpital, justement pour accueillir des gens, toujours dans le non-thérapeutique, mais plutôt dans le partage d'expériences et puis de favoriser déjà l'intégration pour les personnes en individuel et de favoriser aussi le rétablissement en échange de connaissances et de parcours de chacun.
Eh bien, merci messieurs d'avoir partagé ces moments avec nous. Eliane, on va vous laisser les quelques minutes de fin. Vous aviez envie de revenir sur un événement sportif, je crois, si j'ai bien compris, qui s'appelle...
Absolument. Ça s'appelle le trophée du Muvran.
Le trophée du Muvran. Déjà, c'est où le Muvran ? Parce que alors, le trophée, je comprends, mais le Muvran, c'est où ?
Il faut monter au Plan-sur-Baie. Et le Muvran, vous allez voir le miroir de l'Argentine et le Muvran, qui sont des montagnes juste en face de vous. Et chaque année, ils organisent une course. Donc, il faut quand même être assez entraîné parce que on part... les souliers de ski, comment on appelle ces skis que ça glisse pas là.
Les pots de phoque.
Voilà, pardon, les pots de phoque. On voit que j'ai pas participé cette année. les pots de phoque, et ils partent en courant par équipe de deux ou trois. Et samedi dernier, ça y a eu lieu, en fait, la course. Donc, il y a trois parcours. Il y a le plan névé, donc c'est une cabane au-dessus des plans. Donc, c'est 21 km, 2300 mètres de dénivelé. Il y a 28 km, ça c'est le trophée du Mivron, et 33 km qui est le super trophée. Alors, oui, ils partent à 4 heures du matin, les premiers, hein, les élites. Et personnellement, je trouve que c'est assez onéreux pour une course comme ça. Ça coûte quand même 130 francs la participation par personne. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et cette année, ben, ils ont couru à perte. Les organisateurs ont hésité à tout annuler. Et finalement, non, ça a quand même eu lieu. Et il y avait aussi des femmes, des juniors. Puis j'ai eu la chance de voir à 4 heures du matin une équipe. Il y avait le grand-père, le père et le fils.
Toutes les générations confondues.
Toutes les générations. C'était une équipe. Lui, il avait 75 ans, le grand-père. Hein. Alors, comme il n'y avait pas assez de participants, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on annule ? Parce qu'il existe aussi la PTG, c'est la patrouille des glaciers, qui se déroule en fait tous les deux ans à Zermatt, Verbier, Pararolin. Et ça, c'est 53 km. Hein. Donc, il y a des postes de ravitaillement. Mais la règle, en fait, dans ces courses, c'est que si vous partez à 3 et que vous revenez à 2,
vous avez
ça
perdu.
Ne fonctionne pas. Vous avez perdu, voilà, exactement. Comme dit Jimmy, vous avez perdu. À l'époque, il y a une dizaine d'années, tout se faisait au plan. C'est-à-dire qu'il y avait une cantine, il y avait distribution des dessarts, les boissons. Et puis, bon, c'est vrai que les plans, il n'y a rien. Hein. Donc, il y a juste deux églises, c'est tout. Donc, au fait, ils ont fait des bus, organisé des bus pour que les coureurs puissent monter au plan. Et ils partaient des plans, mais après, ils allaient manger à B, à la grande salle. Ça, c'était beaucoup moins cher que de monter ces cantines. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est un événement qui va se dérouler l'année prochaine, vu qu'il y a la patrouille des glaciers. Donc, pour une fois qu'il se passe quelque chose au plan, ça fait tout drôle.
Merci Eliane. En tout cas, j'ai un peu comme le sentiment qu'on est en train d'assister à la naissance d'une rubrique possible à voir qui seraient les plans et événements d'Eliane, parce que ça fait déjà quelques fois que vous venez nous parler de manière très spontanée sur des événements sportifs, des événements dans la région. Je me dis, mais Elvio, pourquoi pas avoir de temps en temps les événements du mois proposés par Eliane, à voir, à réfléchir.
Oui, alors, et puis j'aimerais dire d'accueillir ces dames auprès de nous, je trouve ça extra, donc avec justement des idées novatrices, et puis elles sont pleines de fraîcheur et de et puis de joie. Non, franchement, c'est à chaque fois d'être dans la mixité aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Qui nous tient à cœur, et d'ailleurs, vous allez pouvoir peut-être incessamment sous peu pouvoir rebondir à notre émission en direct, parce qu'on est en train avec Pascal Vigolo de vous préparer une petite technique en plus dans l'émission qui va, alors on verra dans combien de temps, mais la possibilité de pouvoir écrire sur un chat sur le site internet, excusez-moi pour la prononciation, ça a fait rire tout le monde, mais de pouvoir réagir, rebondir en direct. Alors peut-être qu'on aura l'occasion, auditeurs, auditrices, de pouvoir aussi vous avoir des nouvelles depuis votre salon, depuis vos marches à pied, parce que Pavillon Nomade s'écoute en direct sur le canal pavillonnomade.ch de 15h30 à 16h30. Merci à tous, merci à Gégé, merci à Wilson, merci à Anthony, merci à tous les participants d'avoir créé cette belle émission. J'espère, auditeurs, auditrices, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur les ondes de Pavillon Nomade. Et on se quitte avec la dédicace habituelle de Joël, qui est dédiée à notre Julien Morand, qui a osé sauter du plongeoir de 10 mètres à la piscine lors du concert de Théo Lavabo. Alors, si on a des vidéos, moi, je suis preneur à les regarder. À bon entendeur, à bientôt. Au revoir.
Emballé toute la soirée, petit bibelot. dans grande boîte. Je suis ton cadeau, ta belle arénac, ton beau cadeau, yodelé, yodelé, ton mi-cadeau, yodelé, yodelé, ton chamallow, yodelé, yodelé. Je suis ton thé, oh la baba. Je suis ton grand chipolata. Dans du plastique, c'est ma magique. Si tu mastiques, moi tu capotes. Mi papillote, je loue mes pas chuchote. Je suis ton chien saucisse à quatre pattes. Je suis ton teckel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Yorlé, yorlé, yorlé. Chipolata. Je suis ton grand chipolata. Je suis chipolata.